franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Septembre 40, retour d'Exode. En juin, le pays coulait comme du sirop, dira Saint-Exupéry. Par millions et par millions, les Français se jetaient sur les routes. C'était, dira un film d'André Téchiné, des égarés, des exodiens. Ça, c'est le terme qu'aime utiliser notre invité, Éric Alary. Bonjour.
Bonjour, Jean Lebrun.
Terme que vous empruntez à Jean-Pierre Azéma. Vous avez publié un livre sur le sujet, l'Exode, l'an passé. Vous dites d'ailleurs que c'est un moment inaugural dans l'histoire des grandes paniques collectives créées par la guerre contemporaine totale.
Tout à fait. Depuis la Grande Peur de 1789, la France n'a pas connu un tel mouvement de population et surtout un mouvement d'une telle ampleur et d'une telle rumeur qui a conduit sur la route près de 10 millions de personnes belges et surtout françaises et qui crée un précédent malgré quelques petits exodes de 14-18 qu'on oublie aussi un petit peu souvent, un peu trop souvent.
Mais qui étaient autrement organisés, qui ont duré en fait plus longtemps. Vous coordonnez aujourd'hui, Éric Alary, un numéro de Géo-Histoire fort intéressant qui s'appelle « La France sous l'occupation ». On y entend par exemple le maire de Strasbourg, Roland Ris, raconter que son père, réfugié du nord de l'Alsace en Limousin, a appris dans le Limousin ses premiers mots de français, à la grande surprise de ses hôtes qui n'imaginaient pas que les Alsaciens ne parlaient pas leur langue. La défaite avait en effet révélé que la France était moins forte militairement qu'elle ne le proclamait et l'Exode lui a appris qu'elle était moins unie qu'elle ne se l'imaginait. Alors ensuite, ça va être la question d'aujourd'hui, comment s'est effectué dans le trouble et la peine le retour? En septembre, le régime de Vichy, qui avait trouvé sa justification dans la panique de juin, peut-il prouver son utilité et dire nous avons fait preuve d'efficacité? Et puis a-t-il assuré le retour de tous ou seulement de ceux que l'occupant voulait bien laisser rentrer chez eux?
Oh, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants.
Chanson d'époque de Bordas, les Exodiens, ils ont fait connaissance avec eux-mêmes aussi. C'est pas seulement la France qui a fait connaissance avec elle-même, les Exodiens avec eux-mêmes. Parce que quand on est dans les circonstances extrêmes, on ne les a pas connus ni l'un ni l'autre. Éric Alary,
On ne sait pas ce qu'on est vraiment. Les gens qui partent sur la route au mois de mai-juin 1940 découvrent un pays totalement inconnu. Ceux qui viennent de l'Est, ceux qui viennent du Nord, ceux qui viendront également, on les oublie souvent, du Sud-Est, qui fuiront la pseudo-attaque italienne à partir du 10 juin 1940. Et en fait, après et au moment du retour de l'Exode, beaucoup de ces exodiens considéreront que cet exode a été soit dramatique, soit cet exode a été ou a représenté des vacances forcées, soit encore ils ont considéré que cet exode était un leurre et on pourra évoquer éventuellement les raisons de cette impression qu'ont eu beaucoup d'exodiens en rentrant chez eux.
Alors il y a beaucoup de cartes fort intéressantes dans le numéro de Géo-Histoire, vous ne vous êtes pas hasardé à une cartographie des réfugiés en juillet 40, c'est impossible, mais est-ce qu'il y a des môles, des carrefours, des capitales de la panique?
Il y a les capitales de la panique, il y a d'abord Paris. Beaucoup de réfugiés belges et français vont d'abord aller à Paris au mois de mai 1940, mais l'organisation de cet exode est plutôt assez cohérente. Il y a eu des plans d'évacuation dans l'entre-deux-guerres qui ont permis justement de digérer les premiers exodiens. Et puis, le mois de juin, c'est un exode complètement fou, tous azimuts.
Qui amène au sud de la Loire,
qui amène au sud de la Loire. Et on voit bien que l'axe ligérien est un axe de panique. Lyon est un autre axe de panique. Quand notamment les Italiens vont déclarer la guerre à la France le 10 juin 1940, et puis aussi Clermont-Ferrand, et puis aussi d'autres villes du sud-ouest, Bordeaux, là où va fuir d'ailleurs l'État, puisque l'État fuit le 10 juin 1940 de Paris jusqu'à la Touraine, et puis le 14 juin fuit de la Touraine jusqu'à Bordeaux, et il restera jusqu'en gros au 28-29 juin 1940.
Toulouse.
Toulouse également, puisque certains des exodiens voudront fuir le plus loin possible les zones de bombardement. L'un des grands défis des exodiens était de ne pas être rattrapés par les Allemands. Beaucoup, hélas, seront rattrapés avant la Loire.
Alors, le Massif central et ses contreforts?
Alors, il y a beaucoup de Français qui vont s'exiler d'abord, ou comment dirais-je, migrer jusqu'à la Loire, et puis aller au-delà de la Loire. Certains vont s'arrêter là, sur l'axe ligérien, pensant que l'armée française va organiser, c'est la rumeur encore, que l'armée française va organiser une contre-offensive comme en 1914 sur la Marne. Et puis d'autres vont un peu plus loin, dans le Massif central. Ils pensent que là, dans le Massif central, une fois le Massif central passé, c'est là des verrous que les Allemands n'oseront pas franchir. Ils sont déjà allés jusqu'à Paris, ils iront peut-être jusqu'à la Loire, ils n'iront pas au-delà. Mais le Massif central devient un immense bouchon, puisque bientôt les Parisiens, bientôt les gens du Nord, de l'Est, de la Bretagne également, vont commencer à migrer. Ils ont peur, ils sont pourtant loin du front, mais ils ont peur. Ils partent aussi. Ils vont rencontrer bientôt les Lyonnais. Certains suivent l'axe rhodanien, mais beaucoup ont compris que l'axe rhodanien est trop dangereux, puisque les Stukas piquent sur les réfugiés, en tuent. C'est une stratégie de terreur. Et beaucoup vont se trouver dans le Massif central.
700 000 réfugiés dans la Creuse.
700 000 réfugiés dans la Creuse. Et alors, ils sont 700 000 dans la Creuse, ils sont des centaines de milliers dans l'Indre. Alors souvent, ils sont là parce qu'ils n'ont pas pu aller plus loin. Les Allemands les ont rattrapés.
Il faut imaginer, on parlera tout à l'heure de la rentrée scolaire de septembre-octobre 1940, aussi beaucoup d'enfants qui n'ont pas fini l'année scolaire précédente et qui sont là sur le bord des routes, sol, ou en grappe, des affichettes, des annonces dans la presse et puis dès que possible à la radio.
Eh bien mes chers auditeurs, nous allons une fois de plus vous présenter notre émission « À la recherche des enfants perdus ». Cette émission dont nous n'avons plus besoin de souligner l'utilité. Aujourd'hui, écoutez tout d'abord le cas que vous présente le ministère de la Famille, le cas d'enfant recherché numéro 39.
C'est celui de la petite Monique Dehy, D-H-E-I-L-H-Y, âgée de 10 ans. Elle a disparu le dimanche 17 mai à Amiens au cours d'un bombardement. L'enfant mesurait au moment de sa disparition 1,40 m. Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint très clair, une bonne dentition. Voici comment elle était vêtue. Une petite jupe vert foncé, un pullover couleur rouille, un manteau rouille. Elle n'a pas de signe particulier physique, mais elle portait des boucles d'oreilles et une chaîne au cou.
C'était là le cas de l'enfant recherché, notez-le bien, numéro 39.
Oui, alors, les enfants, la Croix-Rouge a compté, a estimé qu'il y avait, pendant l'exode en France, près de 90 000 enfants perdus. Malheureusement, aucune archive ne permet de savoir combien d'enfants ont retrouvé leurs parents. Mais des milliers d'affichettes, effectivement, ont été placardées dans les gares, dans les restaurants. Des milliers d'annonces ont été imprimées dans les journaux pour retrouver les enfants. Alors évidemment, il y a aussi les listes de la Croix-Rouge qui sont envoyées dans les préfectures. Beaucoup d'enfants vont être totalement désemparés au retour de l'exode. Beaucoup ne retrouveront jamais leur instituteur. Beaucoup ne retrouveront jamais leurs parents. Il y a des centres d'accueil qui sont improvisés au mois d'août, au mois de septembre 1940, qui tente d'apporter un peu de réconfort à ses enfants. Mais problème, le 17 septembre 1940, voilà que Vichy prononce une série d'ordonnances qui rationnent l'essentiel de l'alimentation en France, et les enfants qui auront perdu leurs parents et qui pour certains rentreront à l'école de façon tout à fait scabreuse, commenceront dès le mois de septembre 1940 à connaître des problèmes alimentaires.
Avoir 15 ans en 1940, c'est le thème d'un des articles du numéro de Géo Histoire, c'est assumer un fort traumatisme.
Oui, alors on voit une différence tout de même entre l'enfant qui a entre 5 et 10 ans, qui a considéré souvent l'exode comme un jeu très amusant, sauf quand il a été mitraillé par les Stukas. Les enfants dessinent beaucoup. D'ailleurs, à la rentrée du 1er octobre 1940, les instituteurs demandent aux enfants de raconter leur exode. À 15 ans déjà, ce sont des jeunes adultes, beaucoup, peut-être plus mûrs qu'aujourd'hui quand on a 15 ans. Et là, évidemment, c'est beaucoup moins rigolo, cet exode. Et le retour de l'exode, c'est souvent la prise de conscience d'une maison qui est détruite, d'une économie qui ne fonctionne plus, de chômeurs qui errent malgré l'absence de 1 800 000 prisonniers de guerre, dont peut-être le papa, le frère, etc.
Alors, assumer la rentrée scolaire, le rapatriement, la remise en marche du pays pour le nouveau régime, la question est de première importance. Sa capacité en la matière va être scrutée, jaugée, et elle conditionnera l'adhésion éventuelle à son idéologie.
Nous, les enfants du plus fier et du plus beau pays, par l'or et le poison et par la trahison, nous savons qu'une autre doit ressombrer dans la nuit. Mais du fond du passé, des voix nous ont chanté. Debout la France pour la moisson qu'on aperçoit à l'horizon. Dans le ciel monte radieux l'avenir plus merveilleux. Belle jeunesse sous nos drapeaux flotte sur le monde nouveau. Hier est mort, vive demain, une autre France est en chemin.
La France nouvelle réclame des serviteurs animés d'un esprit nouveau. Elle les aura. La première tâche du gouvernement est de procurer à tous, dans les mois qui vont venir, une alimentation suffisante. Or, l'arrêt du travail, les destructions résultant de la guerre, la paralysie des communications, l'exode d'une grande partie des populations agricoles avaient fait surgir sur divers points du territoire le spectre qu'on croyait à jamais banni de la hideuse famine.
Alors avant l'allocution du 13 août du maréchal Pétain, interprétée par Clément Duhour, « Vive demain !» sont des paroles de Raymond Asso qu'on avait connu auparavant, autrement inspiré quand il écrivait par exemple pour sa protégée Édith Piaf. Alors le maréchal met en exergue le cas des agriculteurs, parce qu'il faut assurer la moisson. En juillet.
Alors, il faut assurer la moisson. Et c'était déjà posé le problème en 1914, lorsque le tant d'hommes étaient partis sur le front. Et à nouveau, ce sont les femmes qui se retrouvent en première ligne pour organiser les moissons. Et beaucoup de réfugiés, justement, vont être utilisés dans les régions où ils sont arrivés. Et parfois, ils sont maltraités. Pensez que certains habitants du Sud-Ouest comprennent assez mal qu'on puisse avoir un accent différent du leur, quand on vient, par exemple, d'Alsace, qu'on vient de Moselle. Et c'est un raccourci aussi qu'emprunte ici le maréchal Pétain. Il n'y a pas évidemment que des ruraux qui ont migré sur les routes de l'Exode. Il y a énormément d'urbains, ne serait-ce que les 2 millions de Parisiens, soit 2/3 de la population parisienne intramuros. C'est le choc entre les réfugiés et les populations autochtones, entre des citadins et des ruraux. Mais déjà, on voit mise en exergue, évidemment, la terre, le retour à la terre, le retour à l'ordre moral. Il ne faut pas oublier que il s'intéresse beaucoup aux réfugiés, le maréchal Pétain. Dès le 17 juin, il parle des malheureux réfugiés. Et puis, quelques jours après, il va parler du retour rapide des réfugiés chez eux. Le retour des réfugiés rapide, avec succès, organisé par Vichy. Vichy n'a pas le choix. L'article 16 de l'armistice oblige Vichy à rapatrier les Français en zone occupée. Et donc, si vous voulez, Vichy, pour lui, pour ce régime-là, à partir du 10 juillet, le retour rapide des réfugiés est capital pour légitimer le pouvoir.
Les exodiens sont un peu coupables quand même aux yeux des autorités et aussi des collaborationnistes qui publient à Paris des articles sur les salopards qui sont partis et qui vont rentrer. Mais parmi les prioritaires dont le retour doit être organisé, d'abord les agriculteurs, les fonctionnaires, les postiers, les gens
postiers,
de la SNCF.
Les fonctionnaires, les éboueurs qui doivent ramasser l'ensemble de détritus qui sont restés sur les routes. Les médecins sont sanctionnés. Tous ceux qui sont partis plus d'une semaine ont été sanctionnés par Vichy très rapidement à leur retour, alors que les médecins eux-mêmes souvent avaient été obligés d'aller soigner des réfugiés sur les routes de l'Exode et n'ont pas pu revenir happés par le rouleau compresseur. Le mois de septembre est difficile. Certes, beaucoup de Français ont envie de rentrer chez eux, mais beaucoup, en rentrant chez eux, voient une maison détruite, une sanction professionnelle. Alors, les gendarmes sont prioritaires. Les Allemands ont prévu...
Éric Alary a publié un livre sur les gendarmes. Il est fils de gendarme.
Merci, Jean Lebrun. Et en fait, normalement, les gendarmes, c'est un corps militaire. Et les Allemands avaient prévu le dissoudre. Mais les Allemands ont compris que sans gendarmes, il n'y avait point de retour possible. Or, les Allemands ont besoin de relancer l'économie également en zone occupée.
Les instituteurs ?
Alors, les instituteurs également... sauf tout de même les francs-maçons, les communistes, et Vichy va aider les Allemands à chasser ces instituteurs-là. Et
on va y venir tout à l'heure aux conditions posées par les Allemands, parce que l'article 16 de la Convention d'armistice dit que c'est aux autorités françaises d'organiser le rapatriement, mais avec la collaboration sous le contrôle de l'autorité allemande. Alors, beaucoup piaf d'impatience, disiez-vous, de remonter vers le nord, même si Paris, par exemple, ne va pas être retrouvé avec les couleurs habituel ici de Vincent Scotto. C'est une revue qui a été créée au Capitole de Marseille en décembre 40. C'est tout le midi créé par Alibert.
Les promenades dans la montagne ou la campagne, c'est très joli. Bain de soleil à Nice ou à Cagnes, en petit pagne, mais c'est exquis. Pourtant ces plaisirs du dernier cri ne nous font pas oublier Paris. Si tu revois Paris, dis-lui bonjour pour moi. Dis-lui qu'on le chérit encore plus qu'on te revoit. Dis au bord de la Seine, au Louvre, à l'Opéra, à l'Étoile, à Vincennes, qu'on ne les oublie pas. Si tu revois Paris, dis-lui bonjour pour moi. Dis-lui qu'on le chérit encore plus qu'autrefois. Dis bonjour aux coquettes, aux vendeuses, aux trottins. Bonjour aux midinettes du faubourg Saint-Martin. Si tu revois Paris, dis-lui bonjour pour moi.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Éric Alary qui a publié un livre sur la ligne de démarcation, c'était sa thèse avant de coordonner le numéro de Géo-Histoire, la France sous l'occupation qui nous retient aujourd'hui, dans lequel il y a une belle carte du pays. Alors cette ligne, elle devient de plus en plus étanche et avant de rejoindre Paris, il faut passer la ligne.
Il faut passer la ligne de démarcation.
1200 kilomètres qui courent à travers le territoire.
1200 kilomètres qui traversent 13 départements. La ligne de démarcation a été imposée par les articles 2 et 3 de la Convention franco-allemande, convention d'armistice. Et les Allemands s'installent progressivement en juillet, août et septembre 1940 sur la ligne de démarcation. Vichy, pendant ce temps-là, a organisé le retour en créant des parkings tous les 50 kilomètres, en créant un système de bons d'essence, des bons d'essence avec une date de validité parce que il fallait que les réfugiés puissent rentrer rapidement, il ne fallait pas rester traîner en zone non occupée. Et puis il y a aussi des bons d'essence qui sont trafiqués par des réfugiés et des non-réfugiés. Alors Vichy a dû préparer. D'ailleurs, Vichy, avant d'être Vichy, est déjà concerné par la préparation du retour des exodiens puisqu'il y a une grande réunion qui se tient à Paris le 8 juillet 1940 avec un préfet honoraire, le préfet Marlier. Et là, les Allemands disent, de toute façon, c'est de votre faute l'exode. C'est de votre faute, vous les Français, c'est vous qui avez occasionné cette guerre. Et donc, on est là deux jours avant que les pleins pouvoirs soient donnés.
C'est votre faute, Pétain. Mais c'est nous qui allons contrôler la ligne.
Complètement.
Alors, une fois qu'on a son bon d'essence, on a aussi pu commencer de nouveau à prendre le train. Il faut s'arrêter. Vérification est faite et alors, c'est long, difficile.
Il fallait que les réfugiés d'abord se déclarent dans préfecture, en mairie. Les Allemands ont demandé des listes à Vichy ou à ce qui sera Vichy, mais jusqu'au mois de septembre, ils vont contrôler un certain nombre de listes d'arrivants en zone occupée. La SNCF doit absolument très très vite, et elle a été extrêmement efficace, la SNCF, pour remettre en marche des milliers de wagons. Hein. Les Parisiens arrivent par dizaines de milliers tous les jours du mois d'août et du mois de septembre. Mais les Allemands créent des incidents. C'est-à-dire, ils avaient promis à Vichy que tout se passerait bien. Or, Vichy et Pétain, dans ses discours, doivent à un moment dire « Regardez, les Allemands nous ont aidés, c'est bien la marque d'une collaboration qui peut être magnanime. » Et donc, à ce moment-là, des difficultés se font connaître dans les préfectures françaises et qui vont remonter l'information à Vichy. Et notamment, et aussi à la commission allemande, franco-allemande d'armistice de Wiesbaden, où là, on connaît, grâce aux archives, un listing d'ennuis considérable. Quelques réfugiés de couleur sont refoulés à la ligne de démarcation, on leur interdit le retour, comme on interdit de retour tous ceux qui habitent dans la zone interdite. Vous savez que la France est coupée en deux grandes zones, mais que dans la zone occupée, eh bien, il y a d'autres zones. Il y a l'Alsace-Moselle, oui, qui est donc annexée. Il y a cette zone du Nord et du Pas-de-Calais qui est rattachée au commandement militaire allemand en Belgique. Et puis, il y a cette zone interdite qui court de la Somme au Jura. Et là, elle est interdite parce qu'en fait, elle permet aux Allemands, cette zone-là, d'écluser les réfugiés et de ne faire rentrer que les fonctionnaires, les chefs d'entreprise, les employés, parce que aussi les Allemands ont, dans leur idéologie, l'idée de recréer la vieille Lotharingie et de coloniser cette région-là.
Oui, on voit dans Géo-Histoire, d'ailleurs, un projet assez peu connu, sans doute un peu plus tardif, de transplantation des Tyroliens en Franche-Comté. C'est une illustration de ce que vous disiez du grand dessin lotharingien. Alors, c'est pour écluser les passages vers la zone interdite, qui doivent être très sélectifs, qu'il y a ce que vous appelez la ligne du Nord-Est.
Oui.
Alors ça, ce n'est pas prévu dans la Convention de l'armistice.
Dans la Convention de l'armistice, n'est prévu que la démarcation de Sligny, c'est-à-dire la ligne de démarcation, et c'est tout. Le reste, ce n'est que le bon vouloir du vainqueur. Cette ligne est tracée de façon arbitraire, avec des soldats allemands qui vont se positionner dessus. Mais les Allemands n'avaient pas assez de logistique. À un moment où ils pensaient d'ailleurs que les Anglais allaient interrompre leur guerre, ils ont dû armer, créer toute une signalétique sur la ligne de démarcation principale et sur cette ligne qui s'appelait la ligne Hitler, la ligne noire ou la ligne du Nord-Est.
Ben, quand les réfugiés rentrent à Paris, s'ils vont au cinéma, ils voient défiler sur les écrans les actualités et ça ne donne pas du tout la même tonalité que celle de votre récit.
Sous la direction allemande et suivant un plan strictement suivi, a lieu le rapatriement des réfugiés.
Les organisations allemandes de secours sont occupées partout dans les régions occupées à soulager la misère des fugitifs rentrant dans leur foyer. Distribution de nourriture à Montmartre.
Et ainsi de suite. Alors suivons le plan suivi, comme le recommandent les actualités cinématographiques collaborationnistes. Vous nous parliez des gens interdits de retour, Éric Alary. Alors, qui sont-ils ?
Alors, il y a donc les gens de couleur.
Les gens de couleur.
C'est-à-dire les coloniaux, les indigènes d'Afrique du Nord, enfin, tous ceux qui appartiennent ou qui ont appartenu ou qui appartiennent à l'Empire colonial français. Et vous savez que bon, les Allemands sont profondément racistes. C'est la peur du
noir. Vous voulez dire les nazis.
Les nazis, bien sûr. Et il y a aussi, à partir du 27 septembre, cette ordonnance allemande qui va interdire de retour en zone occupée les Juifs. En fait, en certains points de la ligne de démarcation, déjà depuis le début septembre, certains chefs locaux se renseignent sur l'identité de ceux qui veulent passer. Et certains chefs locaux sur la ligne de démarcation vont commencer à peindre à faire peindre des panonceaux pour interdire d'entrer en zone occupée les Juifs.
Le statut des Juifs de Vichy date d'octobre. Là, c'est une interdiction allemande.
C'est une interdiction allemande. De la même façon, avant le 27 septembre, les Allemands déjà se méfient aussi des officiers belges qui se sont réfugiés dans le sud de la France. Donc, interdiction de retour également aux officiers belges et tous ceux qui ne seront pas utiles, par exemple, à la vie économique du pays et surtout à la vie économique de la zone interdite.
Les Anglais, donc, les Polonais,
oui,
les
Anglais, les Polonais, tous les immigrés allemands, tous ceux qui ont fui le nazisme, tous les Autrichiens également, beaucoup d'intellectuels qui sont là en France, qui n'ont pas pu passer par l'Espagne, qui n'ont pas pu, par exemple, s'exiler vers les États-Unis.
Le maréchal Pétain est très soucieux, dit-il, du sort des Alsaciens lorrains, parce que sont interdits de retour les Alsaciens lorrains qui ne sont pas de race allemande, d'une allocution du maréchal de novembre.
Français. Depuis le 11 novembre, 70 000 de nos frères de Lorraine sont arrivés en zone libre, ayant dû tout abandonner, leur maison, leurs biens, leur village, leur église, le cimetière où dorment leurs ancêtres, tout ce qui fait enfin l'intérêt de la vie. Ils ont tout perdu. Ils viennent demander asile à leurs frères de France. Ce sont des Français de grande race, à l'âme énergique, au cœur vaillant. Un grand nombre d'entre eux sont des paysans. Le gouvernement fait ce qui est en son pouvoir pour soulager leur infortune et leur fournir les moyens de vivre et de travailler. Mais les Lorrains méritent mieux. Il faut que l'accueil qui leur est fait soit l'accueil du cœur, celui que l'on réserve à des parents aimés.
Encore les paysans, mais cette fois-ci les Alsaciens, les Lorrains. Et effectivement, le maréchal Pétain n'a pas d'autre choix que de demander aux Français une aide, notamment dans toute la zone non occupée, qui n'est pas riche, puisque près de 80% de la production industrielle se trouve du côté de la zone occupée. Et également, il demande un effort aux Français de la zone non occupée, qui parfois, il le sait grâce à ses rapports préfectoraux, accueille assez mal des gens d'autres régions. Pourquoi ? Parce que, et notamment dans les régions urbaines, ces réfugiés qui restent, ces réfugiés alsaciens-lorrains, n'ont pas tout à fait la même culture, sont considérés parfois comme trop croyants, d'autres sont accusés de ne pas vouloir s'intégrer parce qu'ils parlent le dialecte. Et ces Alsaciens-Lorrains aussi sont venus souvent avec tout l'argent qu'ils avaient. Et ils ont, au départ, en tout cas à l'automne 1940, certains, notamment dans le Limousin, mais aussi en Dordogne, s'aperçoivent qu'ils ont des moyens de comme disaient les autochtones, de dévaliser les épiceries. Donc on a toutes ces tensions. C'est un accueil qui n'est pas heureux. Alors le maréchal Pétain, par là aussi, avoue qu'il n'a échoué aussi en partie pour ramener tous les Français dans la zone non occupée. Mais notons tout de même que le retour des Français est une de ses grandes réussites, puisqu'en très peu de temps, tout de même, près de 5 à 6 millions de Français vont revenir en zone occupée, avec la complicité évidemment et l'aide, mais ça c'est pour la propagande des Allemands.
Essayons quand même de parler, Éric Alary, pour finir, de ceux qui, par choix ou par obligation, restent en zone sud. Clermont-Ferrand devient la capitale universitaire de Strasbourg.
Oui, voilà, alors.
Lyon, Marseille, la Côte d'Azur. La réorganisation du territoire se fait d'une manière qu'il faudrait raconter plus en détail.
Bien sûr.
Des métropoles.
Oui. Les villes sont pleines. Certaines villes comme Lyon, vous venez de les citer, Marseille, Clermont-Ferrand, sont des villes qui ont triplé, quintuplé en ce qui concerne le nombre d'habitants. Les tensions seront perpétuelles pendant tout le temps de la guerre parce que, par exemple, Clermont-Ferrand, Lyon seront perpétuellement des villes de passage, mais surtout de réfugiés. Pensons aussi que les démobilisés rejoindront pour beaucoup les réfugiés dans ces régions-là, ne pouvant pas revenir chez eux. Alors, évidemment, ça pose des problèmes économiques insolubles et... À certains moments, évidemment, Pétain va demander un effort à ses réfugiés. Il faudrait quand même peut-être aussi, vous aussi, mettre du vôtre pour aider les régions qui vous accueillent. D'ailleurs, un an après le mois de juin 1940, le discours de Pétain a changé, la tonalité a changé sur les réfugiés. Il parle de fuyards avec un ton relativement méprisant. Vous êtes les suppôts de du désordre parlementaire. Il n'incrimine jamais les militaires, il incrimine en priorité les réfugiés et la débâcle morale.
Enfin, tension, mais aussi enrichissement intellectuel et artistique. Parfois, oui. Beaucoup d'artistes d'origine juive ont choisi de rester prudemment en zone sud. Mireille, qui chante à Marseille, qui se réfugie chez un facteur qui lui loue un piano pour l'installer dans son appartement. Ray Ventura et son orchestre, qui prendront ensuite la poudre d'Escampette. On va finir avec une chanson qui évoque le sort des prisonniers. On n'a pas parlé de ce fantôme. 1 800 000 prisonniers sont en Allemagne. Et ça, c'est un retour qu'on évoquera dans une autre émission avec vous, Éric Alary. Bien difficile.
Un soir de solitude, j'ai vu fleurir tel un lointain prélude, mes souvenirs d'enfance de mon pays, la France. J'écoute le vent qui emporte mon bonheur, et pour toi, mon amour, jusqu'au jour de ton retour. J'écoute la pluie, j'écoute le vent qui fuit.
Lise Gotti, je redis son nom parce que c'est une des chanteuses préférées de notre réalisateur Jacques Sigal, un Allemand qui se plaignait de la mélancolie de Paris, repeuplée par les réfugiés. Une Parisienne répondait, mais vous auriez dû venir quand vous n'étiez pas là. Géo-histoire, un nouveau numéro, La France sous l'occupation, votre livre sur l'exode l'an passé aux éditions Perrin. L'émission a été préparée par Mérine Moneghetti et Martin Penet avec Frédéric Martin.